Moi, je sais pas si je vais partout à ma place m'asseoir, parce que vous avez tout dit, quoi. Bouquet de fleurs. L'image qui m'est venue en vous écoutant tous, le bouquet, les fleurs. Chacun a mis une belle fleur. Ça fait un beau. Pour l'instant, les fleurs sont juste là. Moi, tout ce que j'ai dit, vous l'avez déjà dit. Donc, à la rigueur, je peux aller m'asseoir. Hein. Je vais juste mettre une petite ficelle autour pour faire un bouquet, mais rapidement. Le retourne. Je vais sauter sur un passage que j'avais prévu de lire. Mais on poursuit un tout petit peu la réflexion. Catherine va nous lire un psaume sur la bonté de Dieu. Donc par contre, moi, je vais l'afficher quand même. C'est Pierre, tu as la télécommande, je ne sais pas où elle est passée. Là, je vais bien la récupérer. Ouais. Soit tu passes à la main, soit je te fais signe, soit tu me donnes la télécommande. Comme ça. Ok, excusez-moi.
Le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange, toute ma vie je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai exploser ma joie, je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Quant à tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter, car les menteurs seront réduits au silence.
Voilà, donc c'est un psaume d'un homme pourchassé, traqué. Au verset 1, il est dans le désert de Juda. Donc en gros, on sait que dans certains psaumes, on sait où sont les gens, d'où ils écrivent. C'est le cas de ce psaume. Et c'est aussi la force du psaume, c'est qu'on a un petit contexte. Un homme au bord de la mort est poursuivi par des ennemis mortels. Au verset 9, 10 et 11, des ennemis mortels qu'il appelle des chacals. Alors ça se passe bien dans le désert. Dans le désert. On ne sait pas, alors apparemment, ce serait peut-être ce désert-là, en marron, là, à l'est de Jérusalem, et à l'ouest de la mer Morte. Un désert dans lequel peut-être Jean-Baptiste a donné sa prédication, c'est probable, et peut-être aussi, sans doute, peut-être, celui où Jésus aurait été tenté par le diable. En tout cas, a priori de son contexte, le désert, pour nous aujourd'hui, ça a une puissance évocatrice, hein. Il y a plusieurs témoignages qui ont dit j'étais dans le désert. Hein. Jean-Jacques, Sandrine, vous avez dit à mon c'est le désert. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais je l'interprète comme ça. Puis chacun d'entre nous a traversé des déserts. Quand on fait silence, on y réfléchit. Lorsqu'on dit. Parce que David dit dans le désert qu'il est assoiffé pour chasser, il dit que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Ce matin, c'est ce qu'on a dit aussi, on a chanté la bonté de Dieu. Mais en fait, on peut se poser la question, si ça vaut mieux que la vie, est-ce que ça veut dire qu'il souhaite mourir? Il est pourchassé, il est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il a quelques compagnons. seulement. Est-ce qu'il est dépressif? Non. Il ose aboyer. Mais il a compris que la bonté de Dieu signifie que Dieu, c'est le critère suprême de tout ce qui est bien, de tout ce que tout ce que Dieu fait est digne d'approbation. Dieu, pardon, David sait que Dieu est le bien. C'est le verbe être dans le sens. Il est ce qui est bon. Il est le bon avec un grand B. Il est digne d'approbation. Alors du coup, ça s'affiche tout d'un coup, comme je suis en PDF, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Quand vous recevez un examen, alors tout le monde n'a pas forcément bien mentionné très bien, mais en gros, on reçoit un diplôme avec un sceau ou quelque chose comme ça. Mais on peut se poser de quelle approbation il s'agit. Bah déjà de la nôtre, hein, tout ce que Dieu fait est bon. Hein, et il le dit. David, il le dit au verset 5, au verset 7, au verset 11. Je laisserai exploser ma joie, je t'acclamerai. Ça vaut mieux que la vie, enfin, cette bonté nous dépasse. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Donc déjà notre approbation. Ça peut être basique, mais c'est ce qu'on fait en premier. Mais au-delà de ça, dans un sens plus général, plus absolu, on n'est pas vraiment libre de décider ce qui est digne d'approbation ou pas, finalement. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le critère de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon. Parce que personne n'est bon, si ce n'est Dieu. C'est Jésus qui le dit. Lui-même Dieu. David nous encourage d'ailleurs à expérimenter que Dieu est bon. Goûter et constater que l'Éternel est bon. Psaume 34, verset 9. Alors, il est bon en tout temps, en toutes circonstances, puisqu'on nous dit qu'il vaut mieux que la vie. Alors, face à la vie, j'ai fait face à la vie, la louange et face à la mort. Alors, face à la vie, il y a une joie à goûter et constater que l'Éternel est bon. Il s'agit d'une expérience. Plusieurs nous ont témoigné d'expériences vécues. Je prends l'exemple d'un repas. Au cours d'un repas, si j'engloutis un les aliments à grande vitesse, je risque non seulement le risque de fausse route et de m'étouffer. Ça, passons de ce côté-là. Mais trois risques très courants. De passer à côté de leur goût. Deuxièmement, de mal digérer. Et puis, de ne pas vraiment nourrir mon être. Le cerveau, n'ayant pas le temps de recevoir de l'estomac le message de la satiété. En gros, le fait que j'ai assez mangé. Et c'est prouvé, il faut un certain nombre de minutes pour bien profiter d'un repas. Bon, là, je dois dire vraiment que je m'interroge du coup. Est-ce que je prends le temps de constater, de goûter combien Dieu est bon? Combien sa bonté vaut mieux que la vie? Est-ce que je prends le temps de me poser, de mâcher, de mâchonner la parole de Dieu, d'être disponible pour lui? Le temps d'écouter Dieu, le temps de goûter Dieu. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, j'entends deux objections possibles. La bonté vaut mieux que la vie. Non, il ne s'agit pas de rejeter la vie. Il ne s'agit pas d'être un triste sire, vous savez, un triste chrétien. Non, une triste chrétienne. Dire simplement que le bien le plus cher, la méditation de sa bonté, nous conduit à désirer la quiétude. La quiétude, le contraire de l'inquiétude. En goûtant Dieu et à son intimité, comme plusieurs l'ont rappelé ce matin, un temps avec Dieu. Goûter de Dieu, c'est aussi crier de joie, on l'a chanté, face à sa bonté, c'est expérimenter et constater son caractère, Dieu saint, Dieu bon, Dieu parfait. C'est aussi, et dans le psaume 19, ça a été dit, cet élan face à cette double révélation de sa parole et de sa création. D'abord sa création, ensuite sa parole. Cette bonté de caractère, cette bonté des actes de Dieu, par les témoignages donnés, et tout simplement par la magnificence de ce qu'il crée. soutient toutes choses. Deuxième, donc, première objection, ne pas rejeter la vie. La bonté, c'est pas un désir de s'anéantir. La bonté vaut mieux que la vie. On pourrait me dire, oui, mais du coup, si la quiétude, le fait d'être tout tranquille, c'est l'absence d'inquiétude, il ne s'agit pas pour autant de se réfugier dans le quiétisme. Alors, le quiétisme, c'est, j'explique le mot, ça veut dire le paroxysme de la quiétude, de la tranquillité. Ça pourrait être une tendance exagérée d'un psaume qui dit « J'ai l'âme comme auprès de toi, dit encore David, comme un enfant sevré contre le sein de sa mère. » Il s'endort en général, hein. Je crois, les mamans parmi nous, ou celles qui ont des souvenirs de ça, nous confirmeront. Béatitude, tranquille attitude. Mais là encore, c'est les porter à son extrême, si on est trop loin, ça mène vers le quiétisme, c'est-à-dire une vie tournée vers moi et Dieu. Hein, moi et Dieu seul, le reste. Donc voilà, en gros, si on va trop loin, ça, on porte en soi les germes de l'impassibilité, c'est-à-dire en gros l'indifférence au monde. Alors, quelques points. Alors, c'est dommage que ça s'affiche tout d'un bloc, c'est un peu lourd, dommage. J'aurais dû mettre en ODT, enfin en PowerPoint. Je vais pas. En gros, c'est ce que. Donc, Dieu, quand je dis que Dieu n'est pas la source de mal, le premier point, en gros, il n'y a pas en Dieu du méchant et du gentil à la fois. Ça, c'est dans les films qu'on voit ça. Vous savez, dans les films de super-héros, il y a un super titan, il a un peu bon, un peu méchant, il a des super pouvoirs. Non. Dieu, il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas de côté obscur de la force en notre Père céleste. Et du coup, il ne fait que, non seulement il n'y a pas de source de mal, mais en plus, il ne fait que des choses bonnes pour ses enfants. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça a été dit ce matin. Il attend qu'on lui demande, non, ça va plus loin, il attend qu'on lui demande de bonnes choses et que nous prions pour les choses bonnes. Par exemple, là, on voit bien que David, dans le psaume que vous avez peut-être dans vos Bibles, qu'on a lu tout à l'heure, il y a une prière équivoque de David à la fin. Hein, il prie quand même pour la mort de ses ennemis qu'il appelle des chacals. Et Jésus demande de prier, au contraire, pour de bonnes choses, y compris pour les ennemis. On va plus loin tout à l'heure, je crois aussi que ça a été dit ce matin, même quand il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'épreuve, voire de la réprimande, c'est, pour Dieu, c'est l'acte de pure bonté. Alors, ça veut dire quoi? Ben, j'ai pris un exemple pour essayer de réfléchir. Bon, en gros, vous faites enguirlander, ou alors vous enguirlandez vos proches, peut-être vos enfants en particulier, ou vos petits-enfants. Les gronder, selon deux options. L'option éducative de base, hein, on y réfléchit, et on l'éduque. L'autre option, c'est selon l'état des nerfs des parents, des grands-parents. Ok. J'ai pas besoin de faire de commentaires, moi en premier. Alors, l'État français, les États, hein, l'État, qui n'est pas un père, réprimande aussi. Amende, sanctions pénales, etc. pour le bien et la justice. Cependant, est-ce que c'est toujours pour notre bien? Et on voit bien que dans la Bible, il y a deux passages où l'État peut être au service du Seigneur, ça c'est dans Romains 13, pour la justice. Et puis l'État, il peut aussi avoir dans Apocalypse 13 un visage, le visage d'un système totalitaire et diabolique, ambivalence. Mais lui, notre Père, réprime par des actes de pure bonté. D'où, et ça a été dit, redit, le remercier en toutes circonstances, le louer, parce qu'il est tout ça, il n'est pas la source du mal. Il nous donne des bonnes choses, attend qu'on lui en demande, que nous prions pour nos ennemis. Même dans les déserts de notre vie, même face à la maladie et à la mort qui rôdent, la reconnaissance de sa bonté, c'est comme un médicament. Et un remède contre l'indifférence, contre le contentement de soi, je suis très bien, comme ça, voilà, tout va bien, contre l'ingratitude, contre le repli sur soi. Et en réunion de prière, nous rappelons souvent, ces temps-ci, que des choses comme l'accès à l'eau, oui, de l'eau, à l'énergie, carburant, électricité, gaz, bois, etc. La nourriture, tout ça, ce ne sont pas des choses qui nous sont dues. On pourrait bloquer un pays sur le plan alimentaire, un pays comme la France, en 3 jours. Tout est dans des camions. En 3 jours, on bloque le pays. L'électricité, le gaz, le bois vont leur prix renchérir. Et la pénurie, dans certains domaines, pour la première fois depuis 70 ans, nous guette ou nous menace. L'eau se tarit. On voit certaines nappes phréatiques polluées. Dans la région, il n'y a pas à quelques kilomètres d'ici, cet été. Contoyant à la livraison de bouteilles en plastique, ici ou là, avec de l'eau dedans. Et je ne parle que de la France. Non, la bonté de Dieu n'est pas épuisée, mais il ne nous est pas redevable de cette bonté. Il ne nous la doit pas. Sa bonté est pur cadeau, parce qu'il nous aime à la vie, à la mort. Face à la mort, justement, je vous lis le témoignage d'un de mes vieux professeurs, vieux parce qu'il est à la retraite maintenant, professeur de l'Ancien Testament, à Vaux-sur-Seine. Et il était venu ici prêcher il y a quelques années, il était venu à la maison. Et puis à cette époque-là, à peu près, il avait eu un cancer. J'ai vu son témoignage, puis peut-être que je m'arrêterai là, pour peut-être pas m'arrêter complètement là, mais j'essaierai de résumer à la fin. Et je vais essayer une partie de son témoignage. Il m'a touché. La présence d'une menace, d'un conflit, ou plus universellement d'une maladie grave, ouvre les yeux sur ce qui a le plus de valeur, sur ce qui est le plus précieux dans la vie. L'amour de son conjoint, si on en a un, l'affection de sa famille, de chacun de vous dans l'Église, et par-dessus tout, en tout et à la base de tout, la bonté de Dieu. Combien les choses de plus de valeur deviennent dérisoires, et combien celles qui ont de la valeur en prennent encore davantage, bien plus que je ne pourrais l'imaginer. Comme je plains, ceux qui, à l'occasion d'une épreuve similaire, s'aperçoivent du contraire, que leur conjoint ne les aime pas, mais pas vraiment, que leur famille ne s'intéresse pas à eux, que leurs amis les laissent tomber. Et là, c'est Nicole qui parle, il dit « Je me considère vraiment comme privilégié. C'est une expérience extraordinaire, tellement réconfortante, j'ai envie de dire « Donnez-en aux autres, je n'en mérite pas tant, je suis comblé. » Plus généralement, c'est bien de la bonté de Dieu que dépendent toutes ces marques de sympathie humaine. C'est bien la bonté de Dieu qui les inspire, et sans la bonté de Dieu lui-même, toutes ces marques d'affection, de sympathie émouvante, seraient aussi irrémédiablement minées par la tristesse, l'inquiétude qui les accompagne nécessairement. C'est bien la crainte de la séparation qui donne à l'affection sa chaleur la plus intense et toutes ses marques de sympathie humaine. Fragiles, traversées d'inquiétude, ne sont vraiment réconfortantes qu'associées à la bonté de Dieu. Enveloppées de cette bonté de Dieu qui vaut encore mieux que la vie. Ce n'est pas pour dire que la vie n'aurait pas de valeur, mais face à la fragilité de la vie, mise ainsi en évidence, et contre laquelle l'amour humain, l'affection ne peuvent rien, il faut une bonté. Il y a une bonté plus grande, plus forte, éternelle, la bonté de Dieu. Une bonté que même la fragilité de la vie ne peut mettre en défaut. Comme David a raison de dire, ta bonté vaut mieux que la vie. Je passerai rapidement sur cette seconde partie, mais nous sommes appelés à être imitateurs de la bonté de Dieu envers tous, en particulier pour la maison de la foi, c'est-à-dire nos frères et sœurs en Christ, ici ou ailleurs. De trois façons, que je ne développerai guère, la bonté a des synonymes. Et Wayne Grudem, c'est un théologien américain, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. En fait, elle porte le nom de miséricorde quand on va tirer les gens dans la détresse, quand on s'approche et qu'on tend une corde à leur misère. Miséricorde, corde à la misère. Qu'on tend. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait quatre catégories de miséreux. Le lévite, qui n'avait pas de terre, le prêtre, donc il fallait qu'il se fasse aider. L'immigré, la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, je pense souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, à certaines situations de famille monoparentale. Ce n'est pas tout à fait parallèle, ou la personne immigrée aussi. C'est quelques parallèles. Je ne développe pas. Rappelez, je dirais juste, Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. N'oublions pas le bien envers tous. Et puis sa grâce donc c'est bien une bonté envers ceux qui méritent d'être punis. Et en fait, là, j'ai juste dit une chose, pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait disgrâce. Disgrâce, c'est le contraire. Et le seul qui a subi vraiment la disgrâce, c'est le Fils, c'est Jésus. Et nous, on a la grâce, parce qu'on ne mérite pas cette bonté. Et c'est parce que nous avons reçu cette grâce qu'on peut être à notre tour porteur de cette grâce par la vie nouvelle que Christ nous donne, par l'Esprit Saint. Et c'est cette grâce, parce que nous imitons cette bonté, qui peut nous faire dire, alors je vais prendre un exemple un peu d'actualité pour moi, pour vous aussi, en tant que pour les plus âgés, en pensant à vos enfants, petits-enfants, pour faire grâce, quand on passe au « Ah, c'est bon » de nos adolescents, leurs chaussettes non rangées par paire, le rappel incessant que c'est l'heure de passer à table, la table qui n'est pas mise. Alors, crasse ou ours mal léché, lequel des deux est mal léché? Et puis eux, aux jeunes, ou les autres, qui supportent tant bien que mal, avec plus ou moins de grâce, justement, nos leçons de morale, nos inquiétudes, même les mieux dissimulées, pour leur avenir, leur projet professionnel, ou son absence. Les inquiétudes que nous trahissons quand même pour leur bien et qui parfois leur pèsent. Bonté de Dieu sous le nom de grâce. Et puis ce texte que nous a lu Gaël. Je ne sais pas si je l'affiche ou pas. Oui, c'est celui que Gaël a lu. La patience de Dieu. Cette patience qui est le nom de sa bonté envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps. Si je tire sur cette plante, que va-t-il se passer? Ben, je vais l'arracher. Bon, c'est dommage, je voulais la faire grandir. J'ai dit ça le dernier avec les jeunes au culte des enfants, ils m'ont dit, ah oui, ça va pas marcher. C'est étonnant, non? Prenez donc patience, mes frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est proche. Le cultivateur attend le fruit de la terre, le fruit précieux, plein de patience, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les fruits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est approché. Ne soupirez pas les uns après les autres. Ça, on le fait tous, hein. Pour ne pas être jugé par celui dont la bonté prend le nom de patience envers ceux qui persistent dans le péché pendant un certain temps. En résumé, reconnaissons la bonté de Dieu en toutes circonstances, parce qu'elle est plus forte que la vie, et soyons reconnaissants. Elle vaut mieux que la vie, plus forte que la mort, pour sa louange. Et nous sommes appelés donc à imiter cette bonté de Dieu. Le Seigneur nous en donne la force par grâce, là encore une fois. Voici quelques petites fleurs, en bouquet. J'ai fini de mettre mon petit fil autour. J'ai encore à apprendre, nous aussi, nous sommes en chemin. On a des épreuves difficiles à vivre, certains sont dedans, d'autres ont un petit peu avancé sur certaines épreuves, rencontreront d'autres. Que Dieu vous accorde, nous accorde la paix, sa force, des signes concrets de sa présence, de son aide, qu'il renouvelle en vous, en toi, ma sœur, en toi, mon frère, en chacun d'entre nous, l'espérance de la vie éternelle, la confiance en sa bonté, le sens des responsabilités. Amen. Que le Seigneur nous adonne, Seigneur, donne-nous ta paix, ta bonté, le sens des responsabilités et cette foi, cette confiance dont Pierre a parlé, chaque jour, chaque instant. Bénis-nous, raccompagne-nous. Bon, merci Seigneur. Amen. Bonne semaine à chacun. Prenez le temps de vous saluer.